Donc je vous invite à chercher dans votre Bible 1 Pierre chapitre 1 versets 18 à 21. 1 Pierre chapitre 1 versets 18 à 21. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Nous avons eu l'occasion, dans le passé, déjà de présenter quelques messages sur ce chapitre 1. Et j'aimerais juste rappeler brièvement, parce que c'est important, de savoir pourquoi il adresse cet épître et les parties du développement de sa lettre. Donc nous avons vu que du verset 1 à 12, l'apôtre Pierre va rappeler à des chrétiens qui souffraient à cause des persécutions de ce qu'ils sont devenus en Christ, quelque chose qui leur est arrivé, que Dieu a fait pour eux. Du verset 1 à 12, nous avons vu ça. Et à partir du verset 13, c'est le tournant de sa pensée où il va aborder un thème qui lui est très très cher, à savoir mener une vie sainte. Par rapport au verset 1 à 12, on peut dire aussi « mener une vie digne de ce que Dieu a fait pour eux ». Et par rapport à ce sujet, il va les motiver. Il va les motiver et il va donner quatre motivations. Vous pouvez le voir chez vous. Une première motivation pour mener une vie sainte au quotidien, c'est du verset 14 au verset 16. Je veux le lire rapidement. « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. » L'argument très fort. Selon qu'il est écrit, vous serez saint car je suis saint. Donc, première motivation, c'est la sainteté de Dieu qui exige la sainteté dans la vie des croyants. Il va encore donner une deuxième motivation au verset 17. Il va dire, si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Ici, comme source de motivation, l'impartialité du jugement de Dieu, même si Dieu est leur Père. Et à partir du verset 18 que nous venons de lire, une troisième motivation, il va leur démontrer l'efficacité du sang de Christ pour purifier leur vie. Et au verset 20 et 21, il va développer ce sujet, ce que nous allons voir tout à l'heure. Et une quatrième motivation au verset 23. Puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Ici, quatrième motivation, c'est l'efficacité de la parole de Dieu pour développer la vie de Christ en eux. Il va développer ça du verset 24 à verset 25. Mais ce matin, j'aimerais aborder avec vous la troisième source de motivation, l'efficacité du sang de Christ pour purifier leur vie. Et c'est à propos, parce que nous allons célébrer la Sainte-Cène, Et j'aimerais que cette troisième motivation que Pierre adresse à ses auditeurs puisse nous donner à nous ici aussi une meilleure appréciation du plan que Dieu a conçu avant toute éternité pour notre salut. Et ce plan va graviter, si je peux m'exprimer ainsi, autour du sang de Christ. J'ai réfléchi pas mal de temps sur ce passage et c'est formidable comment Pierre, dans ses pensées stralogiques, avance. Je vois, très important, il va citer d'abord deux verbes pour montrer l'importance du plan de la rédemption qui a été conçu toute éternité dans le but de purifier nos vies. Il va utiliser deux verbes. Ici, la version Darby utilise le participe « sachant que » et dans la version seconde « vous savez ». Ça, c'est le premier verbe, très fort. Et un deuxième verbe, « être racheté ». Donc, premièrement, pour montrer l'importance de ce plan, va se servir de deux verbes. Mais, pour enfoncer l'argument, il va utiliser aussi un adjectif, et qu'il utilise au moins 6 fois dans ses épîtres, l'adjectif « précieux ». Et arrivé au summum, pour moi, je l'ai vu comme cela, summum de ses arguments, il va utiliser un contraste. Un contraste est le mot peut-être pas correct, mais je trouve pas un autre mot, je dirais, du point de vue chronologie. Parce qu'il va mettre en contraste l'expression « avant la fondation du monde » où le temps n'existe pas, c'est l'éternité. Et à l'opposé de cela, à la fin des temps, il va parler de la chronologie, le temps linéaire. Donc il va utiliser ce contraste du temps, mais aussi un contraste entre deux phrases, c'est pour ça que je parle de contraste phraséologique, Christ prédestiné, et ça qui m'a bouleversé, tout cela pour vous, pour toi. Nous allons voir donc à partir de cela, 4 points ce matin. D'abord, vous savez, sachant que, ça veut dire qu'il y a la base que tous les croyants doivent savoir, il faut qu'ils le connaissent. On va regarder, donc la rédemption, c'est la base de la foi chrétienne que tout croyant doit connaître. Après cela, nous allons voir la portée ou l'étendue de la rédemption. Ça touche quel domaine de notre vie? Et je vois, par l'adjectif précieux, la satisfaction de Dieu dans le sang de Christ, qui doivent nous apprendre aussi, et surtout le but, de nous émerveiller et mieux apprécier tout ce que Dieu a fait pour nous. Et 4e point, le déploiement dans le temps de ce plan conçu depuis toute l'éternité. D'abord, avant de revenir sur le verset 18, ce que Pierre suggère à ses auditeurs qu'ils devraient savoir absolument, j'ai essayé de regarder l'utilisation de ce verbe dans le Nouveau Testament, et il y en a pas mal de versets, mais je veux m'arrêter sur 3 pour nous rappeler des choses que nous devrions savoir en tant que chrétiens. C'est le béaba. Donc, il fait appel, quand ils disent, vous savez, il fait appel à une vérité ou à un enseignement que ses auditeurs ont reçu et ils le connaissent, ils doivent le maîtriser. Et pour nous aussi, c'est le cas, il y a des choses que nous devrions savoir. Regardez Romains chapitre 5, verset 3, où ce verbe est utilisé. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance ou l'endurance. Le mot grec ici, le contexte, vous pouvez le vérifier chez vous, le contexte, c'est les bienfaits de la justification dans la vie des croyants, du Romains chapitre 5. Et Ce verset, donc, ici, parle de ce que produit l'affliction dans la vie des croyants. Le mot grec traduit par affliction souligne le fait de subir des pressions. Ça, c'est l'idée là, subir des pressions. Et utilisé dans l'époque, ce mot pour décrire l'action de presser des olives pour extraire l'huile, ou presser les raisins pour extraire le jus. Peut-être cette semaine, il y en a parmi les auditeurs ce matin qui ont subi des pressions. Que ce soit de la part de son chef au travail, de la part d'un collègue, ou des pressions dues à des manques, des besoins matériels, ou des pressions liées à un problème de santé. Peu importe ces pressions, ce que les chrétiens doivent savoir, d'après Paul ici, c'est que l'affliction sert à produire dans notre vie la persévérance ou l'endurance. Nous devrions le savoir. Mais vous dites pourquoi la persévérance? Parce que la persévérance, c'est la capacité qui permet de continuer d'agir en dépit des pressions, des oppositions ou des obstacles. Et nous en avons besoin pour avancer dans notre vie chrétienne. Et comme corollaire de ce principe qui est dégagé de ce verset, nous ne pourrions jamais développer la persévérance si notre vie est exempte de pressions ou de problèmes. Un autre exemple, dans Romains 6, verset 6, ou encore ce verbe « sachant que » pour rappeler ce que le chrétien doit savoir. Il dit ici « sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui » en parlant de Christ, « afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. » Vous pouvez lire le passage chez vous, mais le contexte de Romains chapitre 6, c'est que, est-ce que le salut par grâce, au moyen de la foi, permet aux chrétiens ou l'encourage de vivre dans le péché? Ça, c'est le sujet à traiter. Ici, verset 6, ce que Paul dit, tout croyant devrait savoir, le vieil homme, de quoi parle-t-on? Il s'agit de vous, en tant que descendant d'Adam, irrégénéré, sans vie, sans relation avec Dieu. Donc c'est l'homme que j'étais quand j'étais mort spirituellement et incapable d'être en communion, en relation avec le Dieu qui m'a créé. À cause du fait que je suis descendu de Adam. Mais la bonne nouvelle, ce que nous devrions savoir, c'est que la crucifixion, si vous avez accepté le Seigneur comme le sauveur de votre vie, ce vieil homme, ce que vous y étiez en Adam, il a été crucifié quand Jésus a été crucifié au calvaire. Et Paul dit que le corps du péché, ça veut dire le péché considéré comme un tyran qui nous dominait, à cause de la crucifixion de ce vieil homme, a été mis hors d'état de nuire, hors d'état d'agir. Il est devenu inopérant en tant que force dominante. Alors, la domination du péché sur nous a été brisée et chose impossible avant, si vous n'étiez pas encore né de nouveau, devient possible. Parce que vous pouvez maintenant dire non au péché quand il vous sollicite. Le chrétien devrait savoir qu'il est libre de dire non au péché parce que son vieil homme, lui, créé en Adam, il a été crucifié. Il est maintenant devenu un nouvel homme, une nouvelle personne. Nous devrions savoir. Et je veux m'arrêter par un troisième exemple, 2 Corinthiens chapitre 1, verset 7. Où le verbe encore en participe est utilisé ici, sachant que, comme vous avez part aux souffrances,
De même aussi, vous avez part à la consolation.
Quel est le contexte du passage? Le contexte, c'est la consolation divine envers les croyants quand ils sont affligés pour le nom de Christ. Et Paul, du verset 1 à verset 11 de ce chapitre, va donner sa propre expérience de cette bénédiction de la consolation de Christ dans sa vie, dans les afflictions qu'il a traversées. Et tous les croyants doivent savoir que s'ils ont le privilège de souffrir pour le nom de Christ, ils ont, et c'est une certitude, le privilège de découvrir le secours consolateur de Christ. Je vous invite à continuer à regarder ces verbes dans le Nouveau Testament, dans 1 Corinthiens 15, 58, dans 2 Corinthiens 4, 14, dans 2 Corinthiens 5, 6, mais je veux m'arrêter là pour revenir à notre sujet qui nous préoccupe, le verset 18. Le verset 18 parle, revenez, regardez votre Bible, vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés. C'est le deuxième verbe, être racheté. La racine, le nom qui vient de ce verbe, c'est le rachat, d'où le terme rédemption. Mais peut-être, il y a quelques-uns de l'auditeur ce matin qui demandent, mais qu'est-ce que la rédemption qui est tirée de ce verbe être racheté? Il faut revenir à la racine. Dans la pensée hébraïque, dans l'Ancien Testament, pour comprendre très bien le concept, qu'est-ce qu'on entend par rédemption? Parce que Pierre utilise beaucoup de vocabulaire, et ces vocabulaires, pour les auditeurs qui sont familiers, c'est facile à comprendre. Et ceux qui ne sont pas familiers avec cela, vont se perdre. Et il est important de revenir dans le sens même. Qu'est-ce qu'on entend par rédemption? La rédemption, dans l'Ancien Testament, fait référence toujours à la délivrance des esclaves ou des prisonniers de guerre par le rédempteur. Le rédempteur, c'est généralement le proche parent qui peut être le frère de la personne qui est prisonnier ou qui est esclave, ou bien son cousin. Donc, fait référence à la délivrance des esclaves ou des prisonniers de guerre par le rédempteur, moyennant un prix à payer ou la rançon. Je veux répéter, la rédemption fait référence à la délivrance des esclaves ou des prisonniers de guerre par le rédempteur ou le proche parent, moyennant un prix à payer ou la rançon. Si nous avons cela dans l'esprit, on va saisir pourquoi il parle d'agneau, pourquoi il parle de sang, pourquoi tout cela. Et donc, pour comprendre la notion de rédemption, d'après cette définition, trois choses sont importantes. Premièrement, il faut qu'il y ait un besoin, quelqu'un qui est prisonnier ou esclave. Il faut aussi un rédempteur, un proche parent. Et troisièmement, il faut qu'il y ait les ressources, que le rédempteur ait les ressources pour s'acquitter pour la délivrance du prisonnier. Nous allons regarder ça rapidement en ce qui nous concerne, parce que ça s'applique à notre vie aussi du point de vue spirituel. Vous pouvez regarder, parce que je n'ai pas mis le verset ici, sur l'écran, mais tournez votre Bible dans Romains chapitre 7, verset 14. Et Jean 8, 34. Donc, le besoin, un prisonnier ou un esclave qui a besoin de la rédemption. Ça illustre notre situation vis-à-vis de Dieu du point de vue spirituel. La Bible déclare sans exception que l'homme est esclave du péché. Paul cite ici, « Je suis vendu au péché ». Quand vous allez au magasin ou au marché acheter quelque chose, vous payez le prix et vous obtenez la chose. Et il vous appartient, vous faites ce que vous en voulez.
N'est-ce pas? Nous sommes vendus au péché. Le péché fait de ce qu'il veut de nous, parce que le prix a été payé. Donc je suis vendu au péché, donc je suis la propriété de celui qui m'a acheté. Et Jean 8, 34 dit que quiconque se livre au péché est esclave du péché. Vous ne pouvez pas ne pas pécher, parce que votre état de péché ne peut pas vous laisser une autre possibilité. Vous ne pouvez pas vous pécher. Et alors, donc, vous êtes esclave du péché, sa domination règne sur vous. Le reconnaissez-vous? J'aimerais que vous regardiez avec moi Proverbe 5, 22. Intéressant ce verset. Intéressant ce verset. Il nous dit, le méchant. Souvent dans le livre de Proverbe, quand on parle de méchant, c'est pas quelqu'un de cruel qui vise à faire du mal aux autres. Le sens est plus large que cela. Proverbe 5, 22. Le méchant, c'est tout ce qui s'oppose au commandement de Dieu, au principe de la parole de Dieu. Donc le méchant est pris dans ses... Oui, regardez bien. Est pris dans ses propres iniquités. Il est saisi par les liens de son péché. Je veux répéter, le péché, le méchant est pris dans ses propres iniquités. Oui, il n'est pas le choix, on dirait qu'il est, emmené, il est rentré dedans sans force. Il est pris. Et il dit, il est saisi par les liens de son péché. Je peux dégager de cela que le péché nous lie à lui. Et quand il nous lie à lui, il nous enchaîne. Et dans ce sens, nous sommes rendus esclaves. Réfléchissez à cela chez vous. Appliquez-le pour le mensonge. Appliquez-le pour les mauvaises pensées. Appliquez-le pour plein de choses. Vous commencez, vous êtes dans l'engrenage et vous ne savez pas pourquoi vous en êtes arrivé à cet état-là. Il vous lie à lui. C'est là que vous avez besoin d'un rédempteur. Mais celui qui va racheter un autre homme se doit lui-même d'être libre, car un esclave ne pouvait pas racheter un esclave. Ainsi, notre rédempteur doit donc être un homme qui n'avait jamais connu le joug du péché. Vous savez, les Écritures établissent clairement les perfections du Seigneur Jésus-Christ pendant sa vie terrestre, parce que lui, c'est le rédempteur que Dieu a choisi. Nous allons y revenir depuis toute l'éternité. Mais il faut qu'il soit qualifié. Il ne faut pas qu'il connaisse le joug du péché, comme nous venons de dire tout à l'heure. Et la Bible, jalousement, nous montre les perfections du Seigneur Jésus-Christ dans tous les aspects de sa vie pendant qu'il était sur terre. Hébreux 4, 15. Nous dit, en parlant de Christ, il est écrit, il a été tenté en toutes choses comme nous, sans commettre de péché. 1 Pierre 2, 22. Il n'a pas commis de péché. 1 Jean 3, 5. Il n'y a pas de péché en lui. Christ, notre Rédempteur est présenté au verset 19 comme l'agneau sans défaut et sans tache. Donc, il est qualifié du point de vue des exigences de la perfection selon Dieu. Et il est devenu un homme comme nous, sauf du péché. Et il est qualifié pour être le Rédempteur. Mais quand on le présente ici, l'apôtre Pierre le présente, l'agneau sans défaut et sans tache. Vous vous demandez pourquoi l'agneau? Et là encore, il faut revenir dans l'Ancien Testament pour comprendre pourquoi l'agneau. Parce que dans l'Ancien Testament, par miséricorde, Dieu a permis à l'homme pécheur de s'approcher de lui par le moyen d'un sacrifice d'un animal. Pourquoi? Parce que le péché a séparé l'homme de Dieu.
Et par miséricorde, Dieu a permis que l'homme puisse s'approcher de lui, mais moyennant un sacrifice d'un animal. Ici, l'agneau. Dieu avait permis que la vie de l'animal soit enlevée, que l'animal soit égorgé, sa vie soit enlevée à la place de celle d'un pécheur, en tant que son substitut. En attendant le sacrifice de Christ, l'agneau de Dieu, venu mourir à notre place, pour ôter le péché, chose impossible dans l'Ancien Testament avec les sacrifices d'animaux, parce que ces sacrifices ne font que couvrir le péché, nous dit la Bible. Mais le sacrifice de l'agneau qui a été déterminé depuis toute éternité va ôter une fois pour toutes le péché. On comprend mieux maintenant pourquoi l'agneau. Mais question suivante, mais pourquoi sans défaut et sans tâche? Ceci fait référence aux perfections de Christ, c'est-à-dire l'absence de péché dans la vie de Christ durant sa vie terrestre, comme nous venons de le démontrer à travers les versets bibliques où Dieu nous le montre d'une manière jalouse pour qualifier son Fils d'être le Rédempteur, le proche parent pour nous. Christ est donc qualifié pour être notre Rédempteur, car sa vie répond aux perfections exigées par Dieu. Et il est un homme comme nous, mais sans péché. Il est devenu notre proche parent, un homme qui pouvait racheter un autre homme, mais un homme comme nous, mais parfait, sans péché. Nous avons vu le besoin, celui qui est dans le besoin en tant que prisonnier, esclave, ce qui nous concerne par rapport au péché. Nous avons vu le Rédempteur qui est qualifié, le Christ, mais il faut les ressources. Il faut que le Rédempteur ait des ressources et qu'elles soient suffisantes pour acquitter le prix de la rançon. Regardez le verset que nous avons tout à l'heure. Le prix, il est indiqué là, le prix à payer, c'est le sang de Christ. Tournez votre Bible dans Éphésiens chapitre 1, verset 7, s'il vous plaît. Éphésiens chapitre 1, verset 7. Paul dit ceci, « En lui, c'est-à-dire en Christ, nous avons la rédemption. » Voilà notre sujet. Nous avons la rédemption par son sang. Dans ce court verset, nous voyons ici le Rédempteur, Christ. Et nous voyons ici les ressources. Le sang de Christ. Quand on parle de sang, il faut comprendre toujours que ça signifie que c'est une vie qui a été ôtée, sacrifiée à la place de la nôtre. Donc, Christ a donné sa vie volontairement à la place de la nôtre. Mais pourquoi est-elle si importante, ce plan de la rédemption? Nous allons voir dans le passage où Pierre nous montre que il a été conçu pour nous délivrer de la vaine manière de vivre héritée de nos pères, de nos ancêtres. Nous sommes au deuxième point maintenant. Regardons ensemble la portée, l'étendue de la rédemption. Donc, c'est pour nous délivrer de cette vaine manière de vivre héritée de nos pères. Donc, cela touche à la conduite, vaine manière de vivre. Mais qu'est-ce qu'on entend par vaine? Je veux dire sans but, sans valeur, attendons-nous bien, par rapport à la vue de Dieu, selon Dieu. Et vous savez, ça m'a frappé. Parce que, je ne sais pas, dans votre culture, on est beaucoup de nationalités ici, et même, je me suis renseigné concernant l'Antiquité, la mentalité de l'époque aussi, que Pierre me semble un peu aller à contre-courant, parce que, dans l'Antiquité, c'est très important, les conseils des anciens, Et ce qui venait des anciens était considéré avec le plus grand respect. Et je pense encore dans pas mal de cultures aujourd'hui. Et pris comme un véritable modèle de vie. Mais ici, il dit le contraire. C'est bizarre. À quoi s'applique ce qu'il est en train de dire? Il me semble que ça peut s'appliquer dans le domaine de l'idolâtrie. Ou ça c'est une vaine manière de vivre que nous devrions rejeter. Regardez avec moi Actes chapitre 14, versets 14 et 15. Où c'est cité cette vaine chose, ici dans Actes chapitre 14, versets 14 à 15. Où s'applique donc le principe de Pierre concernant l'idolâtrie. Actes chapitre 14, versets 14 à 15. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant « Hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous, et vous apportons une bonne nouvelle. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines. » Pour vous tourner vers le Dieu vivant, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines. Quelles choses vaines? C'est l'idolâtrie. Vous connaissez le contexte. Après un miracle accompli par ces deux apôtres, il veut les considérer comme un dieu, il veut faire un acte sacrifice à l'honneur de ces dieux vivants qui sont descendus parmi eux. C'est une idolâtrie. Ils n'en voulaient pas. Et donc, c'est très important, ça s'applique, ces vaines manières de vivre, d'être idolâtre. Et permettez-moi de parler, en tant que malgache, de notre situation. C'est que, en tant que malgache, nos pères, je dirais nos ancêtres, nous ont transmis, je dirais, un des piliers de la croyance malgache, le retournement des morts. Peut-être vous avez vu des reportages là-dessus. Parce que les malgaches croient à la continuité de la vie, pas seulement sur terre, mais au-delà. Mais ce qui ne va pas, c'est qu'ils comprennent que quand quelqu'un est décédé, il ne va plus être dans les rangs des humains, mais il accède, je dirais, à un rang plus élevé que les humains. Il va avoir le droit ou le privilège de bénir les vivants, de leur accorder des privilèges. Et c'est pour cela que les Malgaches, à cette occasion, font des grandes fêtes et parfois dépensent sans compter, même s'ils n'ont pas les moyens, pour honorer le défunt et surtout demander leur bénédiction. Par exemple, s'ils ont besoin d'enfants, pour la santé, pour les récoltes, pour plein de choses. Et vous savez, dans ma propre famille, ça a été la coutume reçue de nos pères, comme cela. Et il y en a beaucoup encore qui le pratiquent, mais formidable. Depuis que nous avons connu Christ comme notre Sauveur, notre Rédempteur, nous avons cessé de pratiquer le retournement des morts dans ma propre famille. Et je peux vous dire, ça nous a valu le rejet, l'exclusion de la grande famille. Mais ça a valu le coup, et je comprends mieux ce que l'apôtre Pierre dit ici. Vous ne pouvez pas dire, vous êtes chrétien, et vous tenez d'une main les traditions des ancêtres, qui n'est pas biblique, et vous tenez dans une autre main Christ, c'est pas possible. La rédemption opère une séparation dans notre vie, dans ces domaines-là, l'idolâtrie. Je ne sais pas pour vous, mais ça s'applique là. Et je vois aussi que ça peut s'appliquer, ces conseils à contre-courant de l'apôtre Pierre, par rapport à des vaines manières, c'est-à-dire des conduites qui sont immorales, que souvent les chrétiens, comme nous voyons dans l'église de Corinthe, ou même dans l'église d'Éphèse, qui avaient une manière de vivre qui n'est pas selon Dieu. Et ça s'applique aussi à ce point-là. Et il me semble, il fait allusion de cela dans le verset 14 du chapitre 1. « Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. » Vous voyez? Donc ça s'applique aussi à ces conduites souvent immorales
qu'avaient ces païens avant de devenir croyants. Et dans le verset 15 que nous avons cité au début, « Soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. » Et parlant de la sainteté, Paul est très clair dans 1 Thessaloniciens 4, versets 3 et 4. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de la débauche ou la fornication, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Ils avaient traîné ces boulets qu'ils avaient comme coutume de vie, qui était normal dans la société, c'était la normalité. Mais maintenant, en étant en Christ, il ne peut pas d'une main vivre dans la débauche et dire « je suis chrétien » dans l'autre main, ce n'est pas possible. La rédemption opère une séparation dans cet aspect aussi. Permettez-moi ce matin de vous poser cette question. Quels sont les domaines répréhensibles de votre vie que vous avez hérité de vos pères? Ou dans votre vie, quels sont les mauvais comportements hérités? Ils sont condamnables. Mais votre père agissait ainsi, de même votre grand-père. L'apôtre Pierre dit, « Vous savez que Jésus-Christ a donné sa vie comme rançon pour vous libérer de ces vaines manières de vivre et pour faire de vous une personne nouvelle. » Laissez le Christ, votre Rédempteur, obtenir ce pourquoi il a payé pour vous. Vous savez, selon Tite 2,14, regardez ce passage, Tite 2,14, il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui. C'est bien notre sujet. La rédemption opère la purification dans notre vie de tous les jours. J'aimerais maintenant regarder le troisième point. Oh, la satisfaction de Dieu trouvée dans le sang de Christ, cet adjectif précieux. J'aimerais... Il y a un souci ici. Excusez-moi. Ah! J'avais peur. La satisfaction que Dieu trouve dans le sang de Christ. Il va citer à 6 reprises dans ses épîtres, c'est beaucoup dans ce court épître, hein, l'adjectif précieux. Et je pense que c'est important de les revoir rapidement, je vous l'affiche, pour que nous puissions avoir aussi notre échelle de valeur, comme l'échelle de valeur de Dieu. Et il touche beaucoup de domaines. D'abord, dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 7, « Votre foi plus précieuse que l'or. » Êtes-vous d'accord avec Dieu que votre foi est plus précieuse que l'or périssable? Dans 1 Pierre 1, 19, ce que nous avons comme sujet, le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Nous allons y revenir. Le sang de Christ est précieux aux yeux de Dieu. L'est-il à nos yeux? 1 Pierre 2,4 « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée, oui, d'un côté par les hommes, mais choisie, précieuse devant Dieu. Christ, la pierre vivante, est précieuse aux yeux de Dieu. » 1 Pierre 2,6 Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse. Christ est précieux comme pierre angulaire pour tous ceux qui croient en lui. Nous devrions le savoir. 1 Pierre 3,4 Le joyau impérissable d'un esprit doux et paisible est très précieux aux yeux de Dieu. Selon ce verset, la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Et 1 Pierre
2 Pierre 1,4, celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Il conclut en utilisant l'adjectif précieux, en l'appliquant aux promesses de Dieu. Les promesses de Dieu sont précieuses. Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout au verset 19, où ici, il traduit l'adjectif précieux, traduit toute la satisfaction du cœur de Dieu trouvée dans le sang de Christ. Comme dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu. Ce matin, nous allons prendre la Sainte Cène, préparer notre pensée. Posons-nous cette question, avons-nous apprécié pour nous-mêmes la valeur du sang de Christ? Est-il si précieux comme l'est aux yeux de Dieu? Vous savez, nous pourrons le faire dans la mesure où nous sommes conscients de la gravité et de l'horreur du péché. Nous pouvons avoir une meilleure appréciation du sang de Christ à condition et tout simplement dans la mesure où nous sommes conscients de la gravité et de l'horreur du péché. Et pour cela, je dirais, il faut une intervention divine pour ouvrir nos yeux et que nous prenions nous-mêmes en dégoût à cause de nos péchés. Je voudrais terminer assez rapidement par la manière comment Dieu déploie dans le temps, le plan de la rédemption qu'il a conçu depuis toute éternité. Dans le verset 20, revenez dans notre épître, Dieu ici donc révèle par sa parole ce qu'il a préparé au sujet de la rédemption de l'humanité avant que le monde fût. Au verset 20, nous voyons l'élection prédestinée. Il a prédestiné Christ. C'est un sujet très important, mais le sens ici, c'est déterminé d'avance. Donc, il a choisi depuis toute éternité. Le temps n'existait même pas. Christ n'est même pas venu ici. Depuis toute éternité, déterminé d'avance qu'il va être le Rédempteur. Et c'est intéressant, quand on parle, utilise ce terme prédestiné, déterminé d'avance, ça inclut, y compris dedans, dans les moindres détails, l'accomplissement de ce fait. Regardez, tout simplement, Actes chapitre 2, verset 23, rapidement. Actes chapitre 2, verset 23. En parlant de cela, cet homme, livré selon le dessein, on a le même mot ici, le dessein, arrêté, selon la préscience de Dieu. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Et c'est accompli, et voilà l'acteur qui était déterminé d'avance, regardez dans Actes chapitre 4, versets 27 et 28. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. C'est merveilleux, ça me dépasse. Que Dieu avait choisi Christ, son Fils unique, pour être l'agneau qui est la victime, sans défaut et sans tâche, exigée par la rédemption. Déterminé d'avance tous les événements, jusqu'au moindre détail, l'acteur même qui va réaliser cela. Ça me dépasse. On voit dans le verset 20, l'anneau de Dieu fut manifesté à la fin des temps, dans l'élection. Il n'y avait pas le temps. Maintenant, fut manifesté à la fin des temps. Je vois ici l'incarnation. Pourquoi je peux dire cela? Regardez Hébreux chapitre 9, verset 26, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 9, verset 26. «
Mais maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. Vous voyez, la fin des siècles, la fin des temps, qui est paru une seule fois? On parle de l'incarnation de Christ. Dans quel but? Effacer le péché. Et encore plus clair, regardez 1 Jean, chapitre 1, verset 2. Nous vous annonçons la vie éternelle en parlant de Christ. 1 Jean, chapitre 1, verset 2. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Donc, c'est très clair que la fin des temps se réfère à l'incarnation de Jésus à Bethléem, comme cela a été prophétisé 7 siècles avant Jésus-Christ, selon le prophète Michée. Je vous cite Michée 5, 2. « Et toi, Bethléem, Ephrata, de toi sortira pour moi celui qui doit dominer en Israël et duquel les origines ont été d'ancienneté dès les jours d'éternité. » En parlant du Christ choisi, déterminé d'avance pour être le Rédempteur, notre Rédempteur. La fin des temps éclaire donc à commencer avec la naissance de Jésus. Et nous sommes dans la fin des temps. Elle sera consommée lors de la seconde venue de Christ. Il est dit dans ce verset que Christ, l'agneau de Dieu, est ressuscité des morts. Verset 21. Je vois ici la résurrection. La résurrection montre deux faits. D'abord, c'est l'approbation de Dieu sur la vie et la mort de Jésus-Christ. Nous avons dit, il a trouvé la satisfaction dans le sang, dans la vie de Christ et dans son sacrifice. Et donc, ça atteste son approbation sur la vie et l'œuvre que Christ a accomplie pour notre rédemption. Mais, autre chose, la résurrection atteste aussi que nous avons une vie nouvelle en nous, étant bénéficiaires de ce fait. Parce que Paul dit en Colossiens chapitre 3, verset 3, « Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » En parlant des croyants. « Et si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. » Donc, une vie avec cette nouvelle personne que je suis, qui est là. Il est caché en Christ avec Dieu, mais c'est la vie. Donc la résurrection atteste d'une part l'approbation de Dieu sur la vie et l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie, mais atteste aussi que nous avons une vie nouvelle en nous qui a commencé depuis que sa vie est implantée en nous. Et pour terminer, je vois dans ce verset, quand il est dit « Christ, l'agneau de Dieu » a été glorifié au verset 21. Je vois la glorification de Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu lui a donné une position d'autorité suprême en tant que dominateur de l'univers entier. Tournez votre Bible. Pour cela, 1 Pierre chapitre 3, verset 22. 1 Pierre chapitre 3, verset 22. Quand est-ce qu'il a été glorifié? Pierre dit clairement, il est à la droite de Dieu, en parlant de Christ, depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Je voudrais le relire. Il est à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Depuis sa résurrection et son ascension, ça a été le moment où Dieu l'a glorifié. Et vous savez, tout cela, Pierre leur montre, a été conçu, a été planifié depuis toute éternité où le temps n'existait même pas. Mais maintenant, devient manifeste, devient
clair pour eux, pour nous. Et il dit, c'est ça qui nous bouleverse. Tout ce que Dieu a fait, qu'il déploie maintenant là, tout cela, c'est pour vous. Tout cela, pour moi, ça m'a bouleversé. Je suis bénéficiaire de ce plan conçu dans les détails pour moi. Je ne le mérite pas. Et ça doit susciter en nous la louange, ça doit susciter en nous la reconnaissance que tout cela, Dieu a conçu pour chacun de vous. Chers frères et sœurs, que Dieu, par sa parole, puisse toucher votre cœur et que vous puissiez être sensible et vous rendre compte de l'importance de ce plan qu'il a conçu pour vous depuis toute éternité. Dans quel but ? Pour vous libérer, pour nous libérer de l'emprise du péché, de ses vaines conduites. C'est un enseignement que nous devrions savoir. Mais ce n'est pas seulement un enseignement théorique, ça a un impact direct sur notre conduite. C'est dans ce but que Dieu l'a conçu. Ce plan de notre rédemption a été établi avant que Jésus-Christ ne vienne sur terre. Et maintenant, ce plan est devenu manifeste. Parce que Dieu veut que nous soyons à genoux devant sa toute science, sa toute sagesse, son œuvre pour nous, et que ce soit la mentalité, les pensées que nous ayons avant de prendre la Sainte Cène. Et refuser de mener une vie sainte, vouloir signifier que l'homme manifeste une résistance, une opposition au plan de rédemption qui a été conçu pour purifier notre vie. Vous ne pouvez pas dire, je suis chrétien, et vous tenez d'une main des choses vaines, et d'une autre main, Jésus-Christ. Impossible. La rédemption vous oblige à choisir un camp, pas les deux. Que le Seigneur puisse toucher votre cœur, et que vous puissiez dire maintenant, c'est manifeste pour moi. Je laisse ça, parce que je ne veux pas m'opposer à ce plan que Dieu a conçu pour moi, ça, la rédemption. Et pour terminer, que le Seigneur permet à nouveau que vous ayez une meilleure vue, pour une meilleure appréciation de l'œuvre de Christ en tant que votre Rédempteur.